Albert Bataille, Causes criminelles et mondaines. Le 11 janvier 1894, la cour d'assises de la Seine condamne à la peine de mort Auguste Vaillant, qui, moins d'un mois auparavant, a lancé des tribunes de la Chambre une bombe dans l'enceinte réservée aux députés, blessant grièvement l'un d'eux, M. l'abbé Lemire, et de nombreux spectateurs. Affaire Vaillant, l'explosion de la Chambre des députés, Paris, 11 janvier 1894. Il y a des moments où le plus forcené des anarchistes devient un consommateur convaincu. C'est lorsqu'il s'agit pour lui de sauver sa tête. Ce Vaillant, qu'on nous avait dépeint comme un apôtre, a eu hier la plus piteuse tenue. Il n'a pas voulu tuer. Effrayer les députés, les ministres, tout au plus les égratignés, son rêve de propagande par le fait s'arrêtait à ce souhait anodin. C'est à cette excuse enfantine que s'est bornée toute sa défense, et nous retrouvons bien là l'assassin sans courage qui fuyait après avoir commis son crime en cassant à coups de parapluie les carreaux de la porte des tribunes. L'accusé. Offurez-vous un grand diable, confortablement couvert d'un pardessus, orné de faux astrakans, le teint jaune et mat, le teint des Européens qui ont passé quelques années dans les pays chauds, car il ne faut pas oublier que Vaillant était un infâme proprio dans la République argentine. Il a 32 ans, mais le visage n'a gardé aucun vestige de la jeunesse. La barbe est coupée court sur les joues, une moustache brune retombe sur une barbiche effilée. La face est osseuse. L'œil, petit et clignotant, est dur et impitoyable. Rien de généreux, rien d'ouvert dans ce visage ingrat que crispe par instinct un ricanement forcé. De la pose, une pose prudente et qui ne fait jamais oublier à Vaillant le souci de sa précieuse existence. Une alerte. Le palais est gardé militairement, hein, toutes les portes restées ouvertes, et il y en a guère, il faut montrer patte blanche. Ces précautions n'ont pas été inutiles. Tout s'est passé dans le calme le plus parfait et il faut rendre hommage au commandant Lunel qui a dirigé avec infiniment de tact et d'énergie le service d'ordre. Et cependant, vers 11h30, le brave commandant a eu une alerte. Pendant qu'on trie le jury, le bruit se répand qu'on vient de découvrir une bombe dans le vestibule de la deuxième chambre de la cour. Le fait exact. Un garde a ramassé une boîte à sardines enveloppée dans de gros papiers d'emballage. Le commandant Lunel va le jeter à la Seine quand on lui fait observer qu'il vaut mieux l'apporter au laboratoire municipal. M. Girard l'ouvre avec précaution. Elle ne contient qu'un peu de sciure de bois avec de la poussière de charbon. Quelques fumisteries de petit clair. L'audience. Revenons aux choses sérieuses. L'audience s'ouvra à 11h30 précise. Le jury est tiré. Le baron Gustave de Rothschild est tombé au du sort, mais le défenseur M. Laborie l'a récusé. M. le président Casse prend place, suivi de 3 conseillers, M. Persac, M. Labour et M. Créel. Au fauteuil du ministère public, M. le procureur général Bertrand. Pendant que M. le greffier Vilnes donne lecture de l'acte d'accusation, Vaillant, un cahier de papier à la main, affecte de hausser les épaules. De la main, il fait le petit signe d'amitié à quelques compagnons perdus au milieu du public. On fait l'appel des témoins. L'auditoire, un peu désillusionné, attend vainement les noms des députés blessés au palais Bourbon. Aucun d'eux n'a été cité. Enfin, l'interrogatoire commence. Vaillant, qui ne souffre presque plus de la blessure qu'il s'est faite à la jambe en lançant son engin, il répond d'une voix rêche, maussade, en s'accoudant nonchalamment sur le banc. L'interrogatoire. Comment vous appelez-vous? Auguste Vaillant, 32 ans, ex-employé de commerce à Choisy-le-Roi. Vous êtes un enfant naturel, mais votre père vous a reconnu. Vous avez subi 4 condamnations, dont une pour filouterie d'aliments et une pour vol. Vous avez dit à l'instruction que l'exploitation sociale ouvrait à votre profit le droit au vol. Parfaitement. En 1890, vous auriez quitté Paris et vous aviez exercé divers métiers, parce que vous redoutiez certaines perquisitions pratiquées dans les nihilistes russes. Vous l'avez raconté, du moins, et depuis vous avez reconnu que vous n'aviez aucune raison de craindre ces perquisitions, mais que vous aviez voulu vous donner de l'importance aux yeux des copains. Vaillant, haussant les épaules. Oh, mais pas besoin de me donner de l'importance aux yeux des copains. Ils me connaissent parfaitement. Et où êtes-vous allé? Oh, j'ai passé 2 ans et demi en Amérique, dans les solitudes de la République argentine, dans ces solitudes qui m'ont d'abord séduit. J'y sentais l'air de la liberté. J'y approfondis à loisir ma philosophie. Oh, vous y avez même obtenu une concession de 50 hectares de terre avec des bœufs, des chevaux, des instruments oratoires, etc. Vous rêviez d'y faire fortune et de revenir ensuite vous fixer en Algérie. Vous vouliez vous faire bâtir un chalet au bord de la mer. Malheureusement, le climat de la République argentine ne convenait pas à ma santé. Un associé dont j'attendais l'arrivée est resté en Europe. Alors j'ai abandonné ma concession et au commencement de l'été dernier, je suis rentré à Paris. Vous y êtes rentré avec des idées mauvaises. Qui sait, écriviez-vous à un ami, si fatigué de la lutte, je n'irai pas un jour, le cœur plein de haine, livré au combat suprême à la société. C'est ce combat suprême que vous avez livré le 9 décembre à la Chambre des députés. À Paris, vous avez d'abord habité chez un nommé Marshall, auquel vous avez pris sa femme. Maréchal avait quitté son ménage, sa femme était bien libre de faire avec moi ce qu'elle voulait. Vous lui avez même pris ses meubles. C'est-à-dire que j'ai vendu sa bibliothèque à la mairie de Saint-Ouen pour pouvoir payer le terme. Et vous êtes allé habiter avec la femme Marshall, choisie le roi. Là, employé dans une maroquinerie, vous avez médité pendant 2 mois solitairement sur l'acte auquel vous étiez résolu. Solitairement, oui, sans aide ni complice, j'ai étudié la chimie, les fulminates, les explosifs. Une seule chose vous manquait pour fabriquer votre bombe, l'argent. Qui vous en a donné? Un cambrioleur m'a remis 100 francs. J'ai également reçu 20 francs de M. Paul Reclus. Tous deux savaient que c'était pour la Révolution, mais ils ignoraient l'un et l'autre l'acte que je préparais. Et une fois en possession de cet argent, vous avez loué une chambre à Paris, rue Daguerre, pour y procéder à vos manipulations chimiques. Vous preniez des précautions extraordinairement, en posant des scellés sur les meubles quand vous sortiez, et vous adressant à vous-même, sous le faux nom de Marshall que vous aviez pris, des lettres et des vers pour vous assurer que votre correspondance n'était pas décacheté par le concierge. L'engin est fabriqué, Vaillant va se préoccuper maintenant d'aller reconnaître le palais Bourbon. Vous avez pris le faux nom de Dumont pour demander une carte à M. Argelès, député de Seine-et-Oise. Il paraît que M. Argelès a des électeurs de ce nom à Villeneuve-Saint-Georges. Oh, je pris ce nom au hasard, des Dumont, il y en a partout. 2 jours de suite, le 7 et le 8 décembre, vous avez vainement essayé d'obtenir cette carte de M. Argelès. Alors vous avez renoncé à venir vous rendre compte des lieux. Votre bombe était prête et il fallait agir. Vous étiez pressé. Le samedi 9, quand vous avez enfin obtenu l'entrée de la chambre, vous êtes arrivé avec l'engin dans votre poche. Bon, il était trop dangereux à conserver chez moi. Et de quoi se composait cette bombe? Oh, c'était une boîte de fer blanc encastrée dans une autre boîte plus grande. Et que contenait-elle? De l'acide sulfurique et de la poudre chloratée, séparée par un tampon de coton. Et en renversant la bombe, les deux substances se combinaient et le mélange faisait explosion. J'avais rempli l'intervalle qui existait entre les deux boîtes avec des clous à tête, des clous caboches, à peu près 1,5 livre. Et combien de clous pouvait contenir cet engin? Une soixantaine. J'avais enveloppé la botte dans un numéro de l'éclair et ménagé au-dessous du papier un bourrelet
qu'il va donner le renversement instantané nécessaire à l'explosion. Le tout était solidement ficelé avec du fil de fer. Arrivé au Palais Bourbon, vous avez fait passer à M. d'Argelès la carte au faux nom de Dumont, avec ces mots « Je vous rappelle la promesse que vous m'avez faite. » L'huissier vous a apporté une carte et vous êtes entré dans la tribune publique du deuxième étage. Et c'est de là que vous avez lancé la bombe dans l'hémisphère tique de la chambre au moment où M. Mirabeau descendait de la tribune. Votre dessein bien arrêté était d'atteindre le banc des ministres. Oui, je ne voulais pas personnellement, mais tous les membres d'un gouvernement se ressemblent. Ils sont également, les uns et les autres, les représentants de la société. Seulement, vous avez mal calculé la distance. Je ne savais pas qu'on fût aussi pressé dans les tribunes. Je n'avais pas la liberté de mes mouvements, et puis j'étais tout au fond. Vous avez heurté l'épaule d'une dame qui était devant vous. La bombe n'a plus eu l'élan nécessaire, la direction voulue, alors elle a éclaté en l'air. Mais c'est pour éviter cela que je voulais entrer à la chambre quelques jours auparavant, pour bien me rendre compte. Si j'avais su que l'on était aussi gêné dans les tribunes, je me serais arrangé pour que la bombe n'allât tomber au milieu de la chambre. Tandis qu'elle a éclaté trop tôt, de telle sorte que ceux que vous vouliez atteindre ont été préservés. Mais c'est pas de ma faute. En revanche, vous avez blessé les spectateurs dans les tribunes, qui ont littéralement criblé. Ce sont les députés que je visais. Ils sont les premiers responsables de la misère sociale. Ce sont les parasites. Qu'entendez-vous par ce mot ? Ben, le parasite, celui qui ne produit pas et qui coûte à la société. Avant de lancer ma bombe, j'avais rêvé d'adresser aux députés ce petit discours. « Vous pensez pas aux malheureux. Prenez garde, les malheureux penseront à vous. » Le temps et la présence d'esprit m'ont manqué. Et Vaillant, qui s'est contenu jusqu'ici, va maintenant s'animer, se démener comme un beau diable. Monsieur le Président va le toucher à l'endroit sensible. Il a voulu fuir, ce héros, et il n'en veut pas convenir. Monsieur le Président, votre bon Blancet, vous avez essayé de vous échapper. Oh, c'est faux! Vous avez été stupéfait de trouver la porte fermée. Vous criez avec indignation, « Les portes, qu'on ouvre les portes !» C'est un mensonge. C'était bien l'état de crier, j'étais blessé. J'avais du sang plein la gorge. Vous êtes même allé jusqu'aux grilles, et il a fallu que le fonctionnaire vous barra le passage en vous menaçant de vous enfoncer sa baïonnette dans le ventre. Bon, non, ce soldat se trompe, c'est pas moi qui l'a vu. Un officier vous a entendu crier. Je connais l'assassin. C'est un grand blond. Pourvu que cette fois-ci on ne laisse pas s'échapper. Cet officier doit dire la vérité, il se trompe. Comme vous étiez blessé, on vous a transporté à la buvette et là encore, vous avez nié toute participation à l'attentat. Vous avez même prétendu que vous aviez vu passer la bombe à votre droite. C'est faux. Et ce n'est que le lendemain, à l'hôpital, que vous vous êtes décidé à avouer. Vous avez soutenu que vous passiez la fantaisie de regarder la police se perdre en recherche et que c'était pour vous un amusement, un plaisir. Madame, j'entendais des dépositions tellement baroques. C'est-à-dire que vous espériez que la justice en serait pour ses frais. Pas du tout. La preuve, c'est que je me suis dénoncé pour sauver ceux qu'on avait arrêtés à tort. Oui, des innocents que vous aviez blessés. Ce n'étaient pas les victimes de la police, c'étaient les vôtres. Bon, je ne voulais pas voir des innocents payer pour moi de leur tête. De leur tête, avez-vous dit? Vous venez vous-même de fixer votre responsabilité, Monsieur Paul Reclus. Monsieur le Président Case, qui conduit ses interrogatoires de Vaillant avec tant de sobriété et de précision, arrive ici à un point fort intéressant. Quelle a été la participation de M. Paul Reclus à l'attentat de Vaillant ? Avant de vous rendre la chambre, Vous vous êtes fait photographier et le matin de l'attentat, vous avez envoyé une de ces photographies à M. Paul Reclus avec cette lettre. Je pourrais donc mourir tranquille, satisfait d'avoir donné la dernière goutte de mon sang pour les idées libertaires. Ce que je fais est la conséquence logique de mes idées sur Darwin, sur Buechner et sur Herbert Spencer. Vous avez déclaré également que votre acte ne resterait pas stérile et que désormais les députés auraient toujours une bombe de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête. Qu'un autre après vous viendrait qui réussirait mieux qu'avec vous. C'est à désirer. Cependant, prétendez-vous, vaillant, vous n'avez pas voulu tuer. C'est vrai. Vous avez dit que vous vouliez faire un acte de propagande par le fait. Ce sont là de simples distinctions de mots. J'en ai trouvé la preuve dans une lettre de vous, lettre à laquelle vous déclariez que la propagande par le fait consiste dans la destruction de quelques bourgeois. Et je n'ai jamais dit cela. J'ai dit que tout acte dirigé contre la société était bon. J'aurais pu fabriquer une bombe plus volumineuse, y placer des balles et non des clous. Mais dans l'intérêt de la propagande, mieux valait blesser beaucoup de gens que d'en tuer un seul. Mon acte avait plus de portée. Alors, si vous ne vouliez tuer personne, pourquoi vous êtes-vous plaint d'avoir si mal réussi? Ben parce que j'avais blessé de simples spectateurs. Plus de 50. Ben j'aurais préféré blesser 50 députés. Et on a eu le triste courage d'imprimer qu'il n'y avait eu que de simples égratignures. C'est absolument faux. Il y a eu des bombes de renversées. Il a fallu trépaner le crâne d'un des repressés. Mais moi-même, j'ai reçu un clou dans la cuisse. Monsieur le Président, on ne comparez pas l'assassin avec ses victimes. Vaillant. Eh, mes frères que vous envoyez nourrir aux contrats, pensez à eux. Je n'ai pas voulu tuer, moi, je vous le répète. J'aurais pu apporter deux bombes au lieu d'une, je ne l'ai pas fait. J'aurais pu mettre une charge plus forte de poudre verte, je ne l'ai pas fait. J'aurais pu employer un engin plus terrible, la nitroglycérine par exemple, je ne l'ai pas fait. Mais cette poudre verte que vous avez employée a une force comparable à la dynamite. C'est vrai, oui, c'est l'inventeur lui-même qui me l'a déclaré, mais j'ai rempli ma boîte avec des clous et non avec des balles. Mon but était de blesser le plus de monde possible. Je savais que mon engin ne pourrait tuer personne, et les députés ont la vie aussi dure que les autres, je pense. La vérité est que vous avez mal calculé la distance. Enfin, le fait est là, personne n'est mort. Ha ha! C'est de cela que vous vous prévalez. Mais vous croyez donc que je vous dis cela pour sauver ma tête? Vous vous trompez. Si je pensais que vous avez cette idée-là, j'aimerais bien ne plus vous répondre et me croiser les bras. Mais sacré matin, je ne peux pourtant pas vous dire que j'ai voulu tuer. Les clous que vous avez choisis n'en étaient pas moins des projectiles de choix. La pointe devait pénétrer profondément dans les chairs et les larges têtes étaient bien faites pour élargir les plaies. Oh non, je m'en suis servi à la chasse en Amérique et je sais qu'ils sont infiniment moins de pénétration que les balles. Les précautions même que vous avez prises pour transporter l'engin à la chambre démontrent que vous en connaissiez tous les dangers. Dame, je la destinais à la chambre, je voulais pas qu'il éclatât dans la mienne. Rires et rumeurs. Vous avez passé plusieurs jours à préparer la poudre, certainement pour la faire sécher. Vous avez longuement étudié le temps nécessaire pour que l'acide sulfurique se combinât avec le chlorate. Oui. Et vous étiez déterminé à jeter la bombe jusque dans l'hémicycle. Assurément, c'est ce que je voulais. Fort heureusement, vous vous êtes heurté les mains contre une de vos voisines. L'engin a éclaté en l'air et les blessés n'ont pas été atteints que par des ricochets. Autrement, les blessures eussent été beaucoup plus graves. Ce qui le prouve, c'est que dans les boiseries de la chambre ont été entamées profondément, arrachées par des projectiles. Le cercle en cuivre de l'horloge a été perforé. Si j'avais su qu'on fût aussi serré dans la tribune, avez-vous dit, j'aurais mis un peu plus de coton entre l'acide sulfurique et le chlorate, de la sorte l'explosion eût été retardée. La bombe n'eût fait d'explosion qu'une fois à terre. Mais je vous répète que je ne voulais pas tuer. Vous prétendez le contraire, mais vous n'en savez rien. Vous n'êtes pas le premier assassin qui ait une pareille attitude. Vous ergotez misérablement. Vaillant, vexé. Je n'ergote pas, je dis ce qui est. L'audience est suspendue sur cette appréciation du président. L'interrogatoire est terminé, mais cela ne fait pas le compte de Vaillant, qui tient à placer sa petite déclaration anarchiste. Vous ne m'avez pas demandé, monsieur le président, dit-il, quels sont les mobiles qui m'ont poussé à l'acte que j'ai commis. Soit, expliquez-vous. Mais je suis un partisan de la propagande par le fait. J'ai développé mes idées dans les clubs, dans les conférences. J'ai essayé vainement de gagner ma vie, celle de ma femme, celle de mes enfants. Mon patron m'a donné 20 francs par semaine. Je me suis jeté à ses pieds, je l'ai imploré pour les miens, qui mouraient de faim. Et savez-vous ce qu'il m'a répondu? C'est vous que j'ai embauché, c'est pas votre femme. C'est pas votre enfant. Mais j'avais plus de chaussures aux pieds, je marchais avec une vieille paire de galoches que j'avais ramassées dans la rue. Songez à cette angoisse terrible de ne pouvoir donner aux autres ce que l'on a dans le cœur. Alors c'est alors que j'ai pris ma résolution. J'ai voulu montrer à ceux qui nous gouvernent à quelle extrémité en sont réduits les travailleurs qui meurent de faim. Tout cela, je l'ai expliqué dans un mémoire que j'ai ici et que je vous demande la permission de vous lire, car je ne suis pas orateur.
Déclaration de Vaillant.
Et Vaillant tire de sa poche un petit cahier d'écolier soigneusement réglé avec des marges. Ce petit cahier, je l'ai entre les mains. Il exhale une violente odeur de diodoforme, car Vaillant l'a gardé sur lui pendant qu'on le soignait à la conciergerie pour sa plaie de la jambe. Il est couvert d'une écriture appliquée, avec de belles majuscules ornementées, des paraphes de Fourier qui soignent son carnier de rapport. Un graphologue découvrirait dans l'écriture ascendante de ce factum les caractéristiques de la présentation, de la prétention et de l'orgueil, de cet orgueil démesuré que Vaillant affichait pompeusement, presque naïvement, dans cette phrase « La lutte est engagée entre la société et moi ». Il y trouverait aussi une autre caractéristique de l'accusé, l'impatience, cette impatience qui l'a empêché de retourner s'assurer de l'état des lieux avant de lancer sa bombe. Cette fois encore, Vaillant n'a pas su attendre. Visiblement, mon mémoire ne devait être lu au jury qu'après la plaidoirie de son avocat, car il débute par ces mots. « Messieurs, je n'ai que quelques mots à ajouter à ce qui vient d'être dit par Maître Laborie. » Et il continue d'une voix haute et comme agressive. « Dans quelques minutes, vous allez me frapper, mais en recevant votre verdict, j'aurai au moins la satisfaction d'avoir blessé la société actuelle. » Cette société maudite, et l'on peut voir un seul homme dépenser inutilement de quoi nourriture des milliers de familles, société infâme qui permet à quelques individus d'accaparer toutes les richesses sociales, pendant que l'on voit des 100 000 malheureux qui n'ont pas seulement le pain, que l'on ne refuse pas aux chiens, et que l'on voit des familles entières se suicider, faute d'avoir leur nécessaire. Ah, messieurs! Si les dirigeants pouvaient descendre parmi les malheureux. Mais non, ils veulent rester sourds à leurs appels. Il semble qu'une fatalité les pousse, à l'instar de la royauté du XVIIIe siècle, à rouler dans les précipices qui les engloutira. Car malheur à ceux qui restent sourds aux cris de meurent de faim, malheur à ceux qui, se croyant des sens supérieurs, se reconnaissent le droit de laisser croupir et d'exploiter ceux qui sont en dessous d'eux. Car il arrive un moment où le peuple ne raisonne plus, il se soulève comme un ouragan et s'écoule comme un torrent. Alors on voit des têtes sanglantes au bout des pics. Parmi les exploités, messieurs, il existe deux sortes d'individus. Les uns, ne se rendant pas compte de ce qu'ils sont et de ce qu'ils pourraient être, prennent la vie comme elle vient, croient qu'ils sont nés pour être esclaves et se contentent du pain qu'on leur donne en échange de leur travail. Mais il en est d'autres, au contraire, qui pensent, qui étudient, et jetant un regard autour d'eux, s'aperçoivent des iniquités sociales. Et de leur faute en cela, s'ils voient éclater et souffrent de voir souffrir les autres, alors ils se jettent dans la lutte et en se font les porteurs des revendications populaires. Messieurs, je suis un de ces derniers. Partout où je suis allé, j'ai vu des malheureux courbés sous le joug du capital. Partout, j'ai vu les mêmes plaies qui font verser des larmes de sang. Jusqu'au fond, des provinces inhabitées de l'Amérique du Sud, où j'avais le droit de croire que celui qui était fatigué des peines de la civilisation pouvait s'y reposer à l'ombre des palmiers et en y étudier la nature. Eh bien, là encore, plus qu'ailleurs, j'ai vu le capital, qui semblable au camp vampire, venait sucer jusqu'à la dernière goutte de sang des malheureux parias. Alors je suis revenu en France, où il m'était réservé de voir souffrir les miens d'une manière atroce. Ce fut la goutte qui fit déborder le vase. Là, de mener cette vie de souffrance et de lâcheté, j'ai porté cette bombe chez ceux qui sont les premiers responsables des souffrances sociales. On me reproche les blessures de ceux qui ont été atteints par mes projectiles. Permettez-moi de faire remarquer en passant que si les bourgeois n'avaient pas massacré ou fait massacrer pendant la Révolution, il est probable qu'ils seraient encore sous le joug de la noblesse. D'autre part, additionnons les morts et les blessés du Tonkin, de Madagascar, du Dahomey, en y ajoutant les milliers, que dis-je, les millions de malheureux qui meurent dans les ateliers, dans les mines, partout où le capital pressure. Ajoutons-y ceux encore qui meurent de faim, et tout ça avec l'assentiment de nos députés. À côté de tout cela, combien pèse peu ce qu'on me reproche aujourd'hui. C'est vrai que l'un n'efface pas l'autre, mais en somme, ne sommes-nous pas en état de défense en répondant aux coups que nous recevons d'en haut? Oui, je sais bien, comme on le dira, que j'aurais pu m'en tenir aux revendications par la parole. Mais que voulez-vous? Plus on est sourd, plus il faut que la voix soit forte pour se faire entendre. Bien trop longtemps que l'on répond à votre voix par des coups de prison, par la corde et par la fusillade. Mais vous faites pas d'illusions. L'explosion de ma bombe n'est pas seulement le cri de vaillants révoltés, mais bien le cri de toute une classe qui revendique ses droits, qui bientôt joindra les actes à la parole. Car, soyez-en sûrs, l'on aura beau faire des lois, l'on n'arrêtera pas les idées des penseurs. De même qu'au siècle dernier, toutes les forces gouvernementales n'ont pu empêcher les Diderot et les Voltaire de semer les idées émancipatrices parmi le peuple. Toutes les forces gouvernementales actuelles n'empêcheront pas les reclus, les Darwin, les Spencer, les Ibsen, les Mirbeau, etc., de semer les idées de justice et de liberté qui anéantiront tous les préjugés qui tiennent la masse en ignorance. Et ces idées, accueillies par les malheureux, fleuriront en actes de révolte comme elles l'ont fait en moi, et cela jusqu'au jour où la disparition de l'autorité permettra à tous les hommes de s'organiser librement, suivant leurs affinités, et où chacun pourra jouir du produit de son travail, où disparaîtront ces maladies morales que l'on nomme privilégiées, ce qui permettra aux êtres humains de vivre dans l'harmonie, n'ayant plus comme aspiration que l'étude des sciences et l'amour de leurs semblables. Je termine, messieurs, en disant qu'une société où l'on voit des inégalités sociales comme nous en voyons autour de nous, où nous voyons tous les jours des suicides causés par la misère, la prostitution qui s'étale à chaque coin de rue, une société dont les principaux monuments sont des casernes et des prisons, une société pareille doit être transformée le plus tôt possible, sous peine d'être rayée à bref délai de l'espèce humaine. Salut à celui qui travaille par n'importe quel moyen à cette transformation. Voilà l'idée qui m'a guidé dans mon duel contre l'autorité. Mais comme dans ce duel, je n'ai que blessé mon adversaire, à lui de me frapper à son tour. Maintenant, messieurs, quelle que soit la peine dont vous me frappiez, peu importe, car, regardant cette assemblée avec les yeux de la raison, je ne puis m'empêcher de sourire de vous voir, atone perdu dans la matière, raisonnant parce que vous possédez un prolongement de la moelle épinière, vouloir vous reconnaître le droit de juger un de vos semblables. Ah, messieurs, combien peu de choses est votre assemblée et votre verdict dans l'histoire de l'humanité! Et l'histoire humaine, à son tour, est également bien peu de choses dans le tourbillon qui l'emporte à travers l'immensité et qui est appelé à disparaître ou tout au moins à ne se transformer pour recommencer la même histoire et les mêmes faits, véritable jeu perpétuel des formes cosmiques se renouvelant et se transformant à l'infini. Les témoins, ils sont peu nombreux, nous l'avons dit. Madame Perard, logeuse rue Daguerre, a loué à Vaillant la petite chambre où il a fabriqué son engin. Monsieur le marquis de la Perronnaie, député de la droite, se levait pour aller mettre son courrier à la poste quand une détonation éclatait, détonation comparable, dit l'honorable député de la Loire inférieure, à celle que produirait un sac de papier qu'un enfant crèverait en jouant. En même temps, la chambre était remplie subitement d'une fumée rougeâtre. « Je suis retourné à ma place, » ajoute M. de la Ferronnay, attendant une seconde bombe. Et à côté de moi, mon collègue, M. Langevinret, venait de tomber tout ensanglanté. Je l'ai porté au dehors et je suis revenu prendre ma place. Tous les pupitres de mes voisins, celui de M. Le Cerf en particulier, étaient criblés de projectiles. Une lettre que je tenais à la main avait été traversée et je l'ai déposée entre les mains du juge d'instruction. Monsieur Laugier, cuisinier rue Saint-Dominique, qui se trouvait dans l'une des tribunes, a été blessé à la tête et est resté couché pendant 15 jours. Le témoin a été placé à côté de Vaillant, qu'il reconnaît bien à son col de faux astrakhan, mais il ne sait ce que l'accusé est devenu après l'explosion, car lui-même a perdu connaissance. Monsieur Laporte, inspecteur divisionnaire du travail au ministère du Commerce, qui se trouvait également parmi les spectateurs et qui a été très légèrement blessé à la tête, décrit le trajet de la bombe qui a fait explosion à la hauteur des tribunes. M. Bourdon, garçon de la Chambre des députés, a délivré à Vaillant la carte de M. Argelès qui lui a permis d'assister à la séance. Il l'a revu après l'attentat. Vaillant était parmi les premiers qui se sont précipités au dehors en réclamant l'ouverture des portes. M. Bourdon a été lui-même blessé dans l'explosion. M. Archambault est un jeune soldat d'infanterie de marine qui a croisé la baïonnette contre Vaillant. Il avait cassé un carreau avec son parapluie, dépose le jeune soldat, et après être allé de porte en porte, il essayait de franchir celle que je gardais quand je lui ai barré le chemin. « Si vous essayez de passer, lui ai-je crié, je vous fous ma baïonnette dans la peau !» Rire. Vaillant, c'est faux, ce n'est pas moi que vous avez vu. Vous avez dit à l'instruction que j'avais le visage comme tout le monde, et j'étais aveuglé par le sang. Je tenais à la main ce mouchoir, et Vaillant exhibe un mouchoir à carreaux tout ensanglanté. Le soldat, non, non, c'est bien vous. Vaillant, mais j'étais dans l'impossibilité de courir, je traînais la jambe. M. Girard, directeur du laboratoire municipal, a examiné la bombe dont il a recueilli les débris. « C'est un engin, dit un renversement, coquille-t-il, que Vaillant a apporté à la chambre entouré de fils de fer. La force de l'explosion était telle que plusieurs fragments de ces fils de fer se sont incrustés dans le plafond de la chambre et dans la chair d'un des spectateurs blessés. J'ai fait une perquisition au domicile de Vaillant, rue Daguerre. J'ai retrouvé des clous à tête, du chlorate de potasse, des tubes en verre, du sucre en poudre et ce qui restait de sa poudre verte. Un mélange de chlorate de potasse, d'acide nitrique et de cyanure de potassium. Il avait opéré ce mélange avec des bouteilles qui portaient encore le nom de l'opération. Le détonateur se composait d'un petit tube de verre dans lequel l'acide sulfurique et le chlorate momentanément séparés par un tampon de coton, devaient se combiner au moindre choc qui briserait le verre. J'ai reconstitué la bombe avec tous ses éléments, en respectant autant que possible les diverses doses. Vaillant, très intéressé par ces détails. Vous vous trompez. Il n'était pas nécessaire que le verre se brisât. Il suffisait que l'acide sulfurique imbibât le coton et le traversât. Or, si j'avais su qu'on était aussi serré dans la tribune, je serais arrangé pour que la pénétration s'y fît plus lentement. Monsieur Girard, c'était un enjeu terrible. Fort heureusement, la bombe a éclaté en l'air. Les projectiles ont touché le plafond et n'ont fait que ricocher sur les spectateurs. Si les blessés avaient été atteints directement, toute personne frappée aux intestins ou à quelque organe essentiel était morte. Le mélange que contenait la bombe de Vaillant équivaut à 4 cartouches de dynamite, et une seule suffit pour faire sauter plusieurs mètres cubes de pierre. Vaillant. Oh, tout ça, c'est l'appréciation des experts pour arriver à dire « il faut couper le cou à Vaillant ». Monsieur le Président, c'est entendu, vous avez pris toutes les précautions imaginables pour rendre votre engin inoffensif. Rire. Monsieur le docteur Descoutes, médecin légiste, a soigné plusieurs des blessés et Vaillant lui-même, qui a reçu un clou dans la jambe. Parmi les victimes auxquelles il a donné des soins, un spectateur, Monsieur Hainaut, a reçu un clou près de l'oreille gauche et restera probablement sourd. Un autre a dû subir l'opération du trépan. Le docteur Vibert, le docteur Soquet ont également donné leurs soins aux victimes. Parmi elles, une dame qui restera encore 6 semaines au moins à l'hôpital, une autre personne qui a eu la cuisse traversée par un clou, enfin une dame Laporte qui a la rotule fracturée et qui ne pourra être sur le pied avant 5 ou 6 mois. Si tant est qu'elle ne reste pas infirme toute sa vie, on a craint l'imputation. Les témoins à décharge. C'est d'abord M. Benon, ancien conseiller municipal de Paris, auquel son collègue M. Doma, actuellement établi dans la République argentine, a recommandé Vaillant à son retour d'Amérique. M. Benon connaissait Vaillant pour anarchiste, mais il le prenait pour un anarchiste théorique. Il s'est efforcé vainement d'ailleurs de lui procurer du travail. M. Lefebvre, cordonnier, ex-adjoint socialiste de Saint-Ouen, auquel on ne reprocha certainement pas d'avoir l'allure d'un infâme exploiteur, est un ancien ami de Vaillant, qui a travaillé avec lui et qu'il tient pour le meilleur caractère qu'il puisse rencontrer. M. Jules, cordonnier à Lyon, a connu Vaillant en Algérie à l'époque où l'accusé fut condamné pour avoir volé une paire de bottes. Il affirme que son ancien camarade a été victime de la jalousie d'un contremaître qui lui avait conseillé de s'emparer de ses bottes et qui ensuite l'a dénoncé. M. Mortan, maroquinier, était le chef d'atelier de Vaillant à Choisy-le-Roi, où l'accusé travaillait en dernier lieu. Il déclare que Vaillant était un excellent ouvrier et qu'il a même demandé de l'augmentation pour lui. M. Mougin, représentant du commerce à Paris, est un vieil ami de Vaillant qui correspondait régulièrement avec lui pendant son séjour dans la République argentine. M. Mougin nous raconte que Vaillant a fui Paris à cause de son enfant. Depuis son retour en France, il a fait l'impossible pour se procurer du travail. Vaillant était la sobriété même et ne buvait jamais un verre de vin. M. Mougin n'a jamais connu un ouvrier plus honnête. Enfin, M. Le Gentel, propriétaire à Villeneuve-Saint-Georges, dit que Vaillant, comme locataire, il a toujours trouvé très correct. Vaillant. Oh, j'aurais pu faire citer d'autres témoins des camarades qui m'ont connu et qui m'apprécient. Mais ce sont des anarchistes, et c'est un crime aujourd'hui. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu les faire comparaître à la barre. Le réquisitoire. Monsieur le procureur général Bertrand a la parole. Réquisitoire sobre, sans recherche de la phrase ni de l'effet, mais solide, courageux, et qui va nous montrer Valmeillant tel qu'il est, assassin par envie et surtout par orgueil, mais assassin prudent, soucieux, avant tout de sauver sa peau. N'est-il pas vrai, messieurs les jurés, que des débats et des témoignages que vous venez d'entendre se dégage pour vous cette conviction. Vaillant n'a eu qu'une double préoccupation, fuir après le crime et ici sauver sa tête. Malgré son orgueil affolé, il a eu cruel souci constant de ne point payer trop cher l'auréole dont il sera couronné dans les annales de l'anarchie. Cette prétendue victime de la société est en réalité un ouvrier qui a toujours trouvé du travail. Non, il n'a jamais été acculé à la misère, cet anarchiste qui payait avec un billet de 50 francs le loyer de sa petite chambre de la rue Daguerre, où il se cachait pour confectionner son engin. L'intention homicide, la préméditation, ne sont pas douteuses. Vous savez avec quelle habileté il a procédé. Vous vous rappelez ses visites à la chambre pour reconnaître les lieux. Avant le crime, son premier soin est d'envoyer sa photographie à M. Paul Reclus. C'est le commencement de la légende qu'il prépare. M. Paul Reclus, qui se défend de cette amitié compromettante, il n'en a pas moins envoyé des subsides significatifs. Vaillant le tutoyait et, après l'attentat, l'accusé lui transmettait ses manuscrits, le récit de ses impressions pendant les 15 jours qu'avait demandé la fabrication de la bombe et ses œuvres philosophiques dans lesquelles il s'occupait de tout, depuis l'atome qui vole dans l'infini jusqu'à la cellule cérébrale humaine. Monsieur le procureur général Bertrand s'attache à démontrer que Vaillant a voulu tuer. Pour lui, la propagande par le fait, c'est l'assassinat. Les clous dont il avait rempli sa bombe sont aussi dangereux que des balles. Il avait fabriqué le plus puissant, le plus dangereux des explosifs. Si sa main a dévié, c'est pas sa faute. C'est la Providence qui nous a préservés d'une épouvantable catastrophe. Vaillant, poursuit M. le procureur général, n'a aucun complice au sens légal du mot. C'est un solitaire, mais il a des complices moraux, et en tête M. Paul Reclus, auquel il était rattaché par des liens si suspects. Son crime, d'ailleurs, n'a rien de politique. C'est un assassin vulgaire. Sa bombe en poche, l'archiste blesse et tue dans le tas. Il fait le mal comme un cataclysme de la nature, sans choisir ses victimes. Les lauriers de Ravachol empêchaient celui-là de dormir. Il avait vu la tête de son prédécesseur sur l'almanach du père Pénard, encadré dans les montants de la guillotine, avec la lueur sinistre du grand soir à l'horizon. Alors il a voulu faire mieux que lui et jeter sa bombe au milieu de la chambre même, pour frapper davantage l'imagination des compagnons. La philosophie dont il se targue, demandez-lui en la recette, la formule. Elle se résume dans la propagande par le fait qu'il définit par l'exécution des bourgeois, la destruction des édifices, le vol au profit de la propagande, et même le vol au profit individuel. Ce soi-disant apôtre a rêvé d'une petite maison en Algérie, près des flots bleus de la Méditerranée, au pied du Sahel. Il a été colon, propriétaire. Il a eu dans la République argentine un troupeau, des chevaux, une concession. Combien d'autres ont trouvé la vie plus amère? Mais il a tout perdu par son immense orgueil, par son adoration incommensurable du « moi ». Un jour, dans les pampas, écrivait-il à son ami Mougin, me suis trouvé face à face avec un tigre. Je l'ai regardé bien en face, et le tigre a reculé. Rire dans l'assemblée. La désillusion est venue pour cet homme qui n'a jamais été qu'un lâche au travail. Vaillant est rentré en France où il a commencé par enlever la femme de Marshall, son ami. Du travail, mais il en trouva choisi le roi. On lui rendait justice, on parlait même de l'augmenter. S'il est victime aujourd'hui de son envie et de sa vanité déréglée, il ne mérite aucun intérêt, car il a cultivé avec passion ses deux vices, et il les a développés à plaisir, jaloux de conquérir la célébrité par le crime. Et l'organe du ministère public s'oppose énergiquement à l'admission des circonstances atténuantes. Fini, Duval, Ravachol se sont posés comme vaillants en vengeurs de l'humanité, mais ils n'ont été que des assassins. Le meurtre et le vol sont dans les traditions anarchistes. Il est temps de retenir la meute de ces réformateurs de la société qui se préoccupent fort peu de la question des salaires, mais qui se préparent peut-être à des coups d'éclat, comme celui qui, dans leur esprit, a illustré Ravachol. Il est temps de les arrêter, et pour cela, messieurs les jurés, il est temps de ne plus avoir de faiblesse. Quand on veut avoir de la pitié, il ne faut pas venir la demander, la menace à la bouche. À mesure que l'étude des questions sociales nous a rendus plus tendres, elle a rendu ces hommes plus sauvages et plus impitoyables. Ils comptent sur notre mollesse. Ils croient que nous avons peur. Eh bien non, nous n'avons pas peur, et vous le direz par votre verdict. La société fait tout ce qu'elle peut pour les petits. On a multiplié les lois de protection. Avec le suffrage universel, le plus humble a sa part dans l'œuvre d'amélioration sociale. Toutes les bonnes volontés sont à l'œuvre. Messieurs, je requiers contre Vaillant la condamnation capitale. J'ai fait mon devoir, faites le vôtre. Vive sensation. Maître Laborie. Le défenseur de Vaillant, dans une plaidoirie pathétique, dans certaines périodes ont atteint la véritable éloquence, demande grâce pour son client, parce qu'il a été la victime des charlatans du socialisme et parce qu'il a été malheureux. « Vaillant, dit M. Laborie, a été représenté par le ministère public comme un assassin vulgaire, un monstre, un être dénaturé. On vous l'a amené ici avec une telle précipitation qu'il semble qu'il ait voulu spéculer sur la terreur publique. La vérité est que son crime est étroitement lié à la souffrance des déshérités et des humbles, qu'exploitent à leur profit tant de faux apôtres du collectivisme, impuissants à remplacer par leur théorie nouvelle la vieille chanson qui berçait la misère humaine. Quelle part de responsabilité peut incomber à cet esprit rudimentaire, au milieu du chaos, des idées, des scandales comme le procès de Panama, les institutions malsaines des marchands de système, qui, sans jamais parler à l'un de ses devoirs, lui parle à chaque instant de ses droits, de ses appétits, en lui criant « Vois ces richesses, elles sont à toi, prends-les » Monsieur le maître Laborie nous révèle ici l'existence malheureuse de son client. « C'est un enfant naturel, reconnu, vous a-t-on dit. Il a été reconnu, soit, mais il a été abandonné. Il a été élevé au fond d'un village, loin des siens, loin de cette éducation maternelle qui est le meilleur enseignement du cœur. Sa mère, pour quelques francs par mois, s'est débarrassée de lui. À 12 ans, on l'a mis en apprentissage chez un confiseur. Impatient de liberté, l'enfant s'est enfui, et sa mère, remariée, a refusé de le recevoir. Une de ses tantes, une pauvre marchande des 4 saisons, lui donna un faible secours et lui dit « Tu sais, mon enfant, va droit devant toi. Quand tu n'auras plus un centime, on t'arrêtera. Alors tu parleras de ton père, qui est gendarme en Corse, et tu demanderas qu'on te ramène à lui. » Eh bien, messieurs les jurés, savez-vous ce qui advint de ce malheureux enfant? Les gendarmes l'arrêtèrent en effet sur la route. On télégraphia à son père. Et M. Vaillant répondit « J'ai eu la mère du nommé Auguste Vaillant pour maîtresse, mais elle s'est mal conduite, je l'ai quittée. Depuis, elle s'est remariée, je crois. Je vous prie de faire reconduire l'enfant chez elle. » Malgré cela, comme il se réclame de moi, je lui envoie 20 francs pour qu'il puisse retourner près de sa mère. Je fais cela comme une charité et non comme une reconnaissance. Et quant à la mère de Vaillant, elle répondit « Il m'est impossible de recevoir l'enfant. Mon mari me mettrait à la porte. D'ailleurs, je suis malade et dans la dernière misère. Son père peut le recevoir. » J'espère qu'il ne sera pas malheureux. Et c'est ainsi, s'écrie M. Laborie, que ce malheureux enfant de 14 ans fut abandonné et qu'il erra de patron en patron, de ville en ville, ici arrêté pour avoir mendié un morceau de pain, là condamné pour avoir un jour qu'il mourrait de faim pris sans payer chez un restaurateur un repas de 90 centimes. Maître Laborie suit ainsi vaillant, pas à pas, année par année, pendant la triste odyssée de son existence. Depuis l'âge de 20 ans, il n'a pas été condamné. Il est devenu un honnête homme, et c'est miracle. Il a essayé de tout, sans succès. Le climat de la République argentine a ruiné sa santé, et à son retour, il n'a trouvé que la misère. Il a frappé en vain à toutes les portes. Son patron de Choisy-le-Roi lui donnait 20 francs par semaine, pour lui, pour sa femme et pour son enfant. Le pain manquait à la maison, presque chaque jour. Qu'on s'étonne qu'il soit devenu un aigri, un révolté, avec les lectures dangereuses dont il nourrissait son cerveau malade. Vaillant, dit Maître Laborie, n'a pas commis un crime individuel. Il n'a pas frappé son patron, ni M. de Rothschild. Il a frappé à la tête. Il a voulu s'en prendre à ce qui dirige cette société, qui n'a jamais rien fait pour lui. Est-il le seul coupable, et la condamnerez-vous sans merci? A-t-il voulu tuer? Non, il vous l'a dit. Non, qu'il aime les hommes, il aime trop l'humanité pour cela. Mais enfin, il pouvait charger sa bombe avec des balles, au lieu de la charger avec des clous. Celui qui n'a pas voulu donner la mort n'a pas mérité de la recevoir. Dans son crime, il y a un peu de la faute de tous. Si vous condamnez Vaillant à mort, que ferez-vous de son père, de ce gendarme corse qu'il a abandonné? Les véritables coupables sont les exploiteurs des idées collectivistes qui créent des fanatiques pour se faire des prébendes, des mandats, des profits. Messieurs, vous allez faire un acte historique. Ayez le courage de l'accomplir. Le monde a les yeux fixés sur vous. Que votre verdict soit une leçon de modération, de moralité publique et de pitié.
Le verdict. À 5 heures, le jury entre en délibération. Il revient en séance au bout d'une demi-heure. Une voix forte, le chef du jury donne lecture du verdict. La réponse est affirmative sur la question de tentative d'assassinat. Négative sur la question de destruction d'un édifice à l'aide de substances explosives. Le verdict est muet sur les circonstances atténuantes. Qu'avez-vous à dire sur l'application de la peine? Demande à Vaillant M. le procureur Case. C'est la mort? Interroge le condamné en se penchant vers Maître Laborie et sur un signe affirmatif de son défenseur. « Bien, fait-il avec un sourire, je vous remercie. » Et pendant que la cour délibère, Vaillant affecte le plus grand calme. Il cause avec Maître Laborie en tambourinant sur la barre. De temps en temps, il adresse un sourire à quelque ami perdu dans le public au fond de la salle. Puis, de la main droite, il fait un geste sinistre, il se frappe le cou du revers de la main en ricanant. La cour le condamne à la peine de mort. « Vive l'anarchie !» s'écrie-t-il de sa voix sèche, rauque et tranglée, malgré lui par l'émotion. Et, vainement, il attend qu'un écho lui réponde. À la cour de cassation. 20 janvier. Le pourvoi de Vaillant a été rejeté aujourd'hui par la Cour suprême. Maître Devin, qui était chargé des intérêts du condamné, soutenait que les questions avaient été irrégulièrement posées au jury. Au lieu d'une interrogation unique sur l'attentat du Palais Bourbon, le ministère public aurait dû poser au moins 2 questions distinctes. Premièrement, Vaillant a-t-il tenté de commettre un homicide volontaire sur les membres de la Chambre? Deuxièmement, Vaillant a-t-il voulu commettre un homicide sur les spectateurs des tribunes? Maître Devin faisait observer
que le jury aurait pu, par exemple, écarter la préméditation en ce qui concerne les assistants et accorder à Vaillant des circonstances atténuantes en ce qui concerne les députés. La portée du verdict eût été ainsi changée. Vaillant eût sauvé sa tête. Monsieur l'avocat général Sarrut estime que ces distinctions juridiques sont sans intérêt. La question a été parfaitement posée. Vaillant étant accusé d'un attentat unique, il conclut au rejet du pourvoi. Vaillant avait signé lui-même des conclusions dans lesquelles il soutenait que, son crime étant un crime politique, la peine capitale ne pouvait légalement lui être appliquée, la peine de mort étant abolie en matière de politique. La Cour, après un long délibéré, a rejeté les conclusions du condamné. Attendu, dit l'arrêt, que le crime de Vaillant est unique, indivisible, accompli par les mêmes moyens, sous l'influence des mêmes mobiles, qu'il a été inspiré par la même volonté d'homicide et qui devait entraîner les mêmes conséquences, qu'il importe peu que l'explosion ait atteint d'autres personnes que celles qu'il était dans l'intention de viser, par ces motifs, le pourvoi du condamné à mort est rejeté. Exécution de Vaillant. Vaillant a été exécuté le 6 février 1894 sur la place de la Roquette. Pendant la toilette, il a cessé d'exposer ses théories anarchistes, se reprenant en imprécation contre M. Carnot et refusant de recevoir le prêtre, l'abbé Valadier. Arrivé devant la guillotine, « Mort à la société bourgeoise » s'écria-t-il, « et vive l'anarchie !»